Hebdo du jeudi 13 décembre 2018. Au sommaire, gros plan sur les potentiels qu'offre la technologie dite haptique, une technologie qui permet l'interaction sensorielle entre le réel et le virtuel. Alors, où en est-on dans ce domaine au Québec? Quelles sont les solutions concrètes développées dans le secteur? C'est ce que nous révélera Jessica Hébert dans un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également, l'analyse « C'est science » de notre économiste Audrey Azoulay sur la réalité économique des villes intelligentes. Et enfin, notre invitée de la semaine, c'est Lydia Divry, présidente de Techno Montréal, la grappe des technologies du Grand Montréal. L'occasion de passer en revue avec elle les grands enjeux qui attendent en 2019 cette industrie qui emploie au Québec, on le rappelle, plus de 150 000 personnes. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 13 décembre 2018, la technologie haptique. Salut Jessica.
Bonjour Philippe.
Alors c'est un domaine dont on parle peu, mais qui est en pleine effervescence. Une technologie assez récente qui permet une interaction sensorielle entre le réel et le virtuel. Explique-nous ça.
Effectivement, c'est assez récent. On parle d'un peu plus d'une dizaine d'années, mais vraiment avec un intérêt significatif pour son développement depuis seulement 5 ans. C'est un domaine où les technologies progressent rapidement. Les technologies haptiques sont pour le moment utilisées pour ressentir un contact lors d'une manipulation d'objets virtuels, notamment la vibration sur un téléphone lorsqu'on reçoit les appels, ou encore pour adapter les téléphones pour les personnes non-voyantes. Par contre, Philippe, d'ici quelques années, tu pourrais être en mesure d'acheter un chandail en ligne et question d'être sûr qu'il te convienne, tu pourrais toucher sa texture directement sur ton téléphone.
Ouais, Noël va être différent dans quelques années.
Oui, donc tu pourrais toucher directement le tissu. Cette utilisation de la technologie haptique pourrait se retrouver dans ton téléphone ou dans le mien d'ici 5 à 10 ans. Pour l'instant, la technologie est encore embryonnaire. Il reste énormément de recherche et de développement à faire. Par contre, certaines grandes compagnies ont déjà des prototypes sur des immenses tablettes qui permettent de toucher ce qu'on voit. Et évidemment, la technologie n'est pas compatible avec les petits appareils pour l'instant. Et si je fais une comparaison avec la télé, la technologie est au stade de la télévision en noir et blanc. Le développement de la technologie demande cependant vraiment beaucoup d'énergie et les piles des appareils électroniques ne sont pas encore adaptées. Et c'est là que Boreas Technologies, une compagnie qui est établie à Bromont, vient changer la donne, comme l'explique Simon Chaput, président de Boreas Technologies.
Boreas est une entreprise en microélectronique qui fabrique des circuits intégrés. Ce qu'on amène à ce genre de technologie-là, c'est vraiment la partie faible consommation. Si on essaie d'implémenter des technologies haptiques avancées, ça va consommer beaucoup d'énergie. Où est-ce que Boreas arrive dans le portrait, c'est qu'on a une technologie qui permet de réduire par environ 10 fois la quantité d'énergie consommée, ce qui va permettre de pouvoir implémenter une meilleure qualité haptique sans affecter la durée de vie de la batterie.
La compagnie est pionnière dans son domaine. Vraiment, sont les seuls à être prêts à commercialiser le tout. Boreas Technologies détient d'ailleurs une licence exclusive de commercialisation. Dès mars, la technologie va se retrouver dans les laboratoires de certains partenaires et d'ici 3 ans, déjà dans nos téléphones. Et bien qu'établi en région, Boreas Technologies joue vraiment dans la cour des grands et travaille avec les géants des télécommunications, que ce soit en Asie ou en Californie.
Alors justement, la compagnie est installée dans le parc scientifique de Bromont, dans les locaux du C2MI, le Centre de collaboration micro-innovation, qui se trouve être un centre de recherche et d'innovation partagé. Jessica, est-ce que le fait d'être installée dans un lieu comme celui-là a eu un impact sur la compagnie?
Tout à fait. Monsieur Chaput m'expliquait que dans le cas d'une start-up comme la sienne, ça fait vraiment une grande différence et que ça a été même un incitatif pour quitter les États-Unis et s'implanter à Bromont en 2016. Dans le cas de Boreas, cette technologie, ça a permis vraiment de gagner des années du côté de la recherche, ce qui explique aujourd'hui qu'ils sont des pionniers, comme l'explique Simon Chaput.
Ça nous a permis d'avoir accès à des espaces de travail, mais aussi des laboratoires à la fin de pointe de la technologie, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Au lieu d'avoir affaire tout le temps avec des sous-contractants où est-ce qu'on envoie nos échantillons, qu'on fait faire des tests chez eux puis qu'ils reviennent, ça va prendre 3-4 semaines. Ici, on peut louer l'équipement, ça peut prendre 2-3 jours puis on a les résultats, donc on peut progresser beaucoup plus rapidement.
Alors Jessica, au-delà de réduire considérablement les délais, j'imagine que d'être installé dans un centre d'innovation partagée, ça a un impact financier.
Absolument. Les compagnies sont amenées à travailler avec de nombreux équipements dont le coût pour se les procurer peut monter très, très rapidement. On parle de centaines de milliers de dollars par équipement, Simon Chaput.
Donc, c'est certain qu'en tant que compagnie en démarrage, on n'a pas nécessairement les ressources financières si on avait eu à acheter ces équipements-là à chaque fois. Donc, on est capable de vraiment juste utiliser la partie qu'on a besoin. Fait que le nombre d'heures qu'on a besoin sur un an de ces équipements-là, là, ça devient très, très attrayant pour nous. Honnêtement, pour nous, ça a été un levier important.
Monsieur Chaput me disait aussi que bien que chaque compagnie travaille vraiment en secret sur ses propres projets, le fait de se trouver dans le même lieu que plusieurs autres compagnies, ça amène une certaine entraide. Les compagnies ne collaborent pas entre elles. Par contre, pour certains tests, vraiment en laboratoire, c'est là qu'elles vont s'entraider. Il me disait aussi qu'il ne comprenait pas pourquoi les startups qui ne se tournent pas automatiquement vers les centres de collaboration. Il a l'impression qu'au Québec, leur utilité est sous-estimée. J'ai essayé de voir avec le C2MI si c'était leur impression, mais j'ai pas été en mesure de les rejoindre.
Un sujet de discussion qui trouvera sans doute un écho auprès de notre invité. Je vous rappelle que nous recevons dans quelques minutes Lydia Divry, présidente de Techno Montréal, la grappe des technologies du Grand Montréal. Merci beaucoup, Jessica. Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors on va parler là aussi d'un sujet qui va intéresser notre invité, les villes intelligentes. Montréal compte au palmarès des 25 villes les plus intelligentes au monde. On se pète les bretelles, un champion de l'oméga 3. Mais une ville intelligente, fin 2018, ça reste une ville d'une grande complexité technologique.
Oui Philippe, parce que s'il y a un domaine où l'intelligence du numérique et des algorithmes peut montrer ses formes les plus transversales, eh bien c'est certainement dans le domaine municipal. On est toujours très tenté d'explorer comment les industries se redéfinissent dans la nouvelle donne technologique. Mais lorsqu'on porte notre regard sur les villes, l'intégration technologique prend une autre ampleur. Elle vient à la rescousse d'un système de systèmes qui est donc complexe de par les enjeux d'urbanisation et de leur interdépendance, ou du fait aussi des réalités propres à la gestion des territoires. La ville a besoin d'une gestion toujours plus intégrée et parmi les priorités, on compte en premier lieu la mobilité durable et l'optimisation des réseaux électriques intelligents. Alors, ce sont des priorités qui devraient aussi s'accentuer dans l'avenir. D'ici à 2050, 70% de la population mondiale vivra en milieu urbain. On y consommera 80% de l'énergie et on y émettra 75% des gaz à effet de serre. On prévoit également qu'avec l'urbanisation croissante, la production mondiale de déchets devrait tripler au cours du 21e siècle. Naturellement, il y a des villes qui feront mieux que d'autres, mais de toute évidence, avec les mégacités toujours plus nombreuses et plus généralement avec la croissance des villes, l'effet de taille génère indéniablement des pressions, augmente les risques de dysfonctionnement et des dysfonctionnements possiblement coûteux économiquement ou socialement.
Alors, qui dit nouvelles pratiques dans les villes dit aussi, j'imagine, potentiel de développement technologique, d'innovation assez considérable.
Oui, effectivement, parce que les besoins des villes ne manquent pas. Les idées émergent et sont d'ailleurs encouragées. Les gouvernements locaux lancent d'ailleurs presque en continu de nombreux concours pour trouver des solutions innovantes à des problématiques précises. La ville intelligente, c'est aussi un marché mondial qui devrait atteindre 1,4 trillion de dollars américains en 2020 et une croissance annuelle qui se maintient au-dessus de 10% depuis maintenant plusieurs années. Alors, on passe par toute l'artillerie traditionnelle, je dirais, l'intelligence artificielle, évidemment, le stockage et la sécurité des données, les objets connectés, la visualisation, d'innombrables applications mobiles, en particulier pour le transport. Il faut préciser qu'on conteste un peu le caractère trop technocrate qui se trouve derrière le vocable de ville intelligente et que de nouvelles définitions se greffent progressivement. D'ailleurs, parmi les municipalités les plus innovantes, on compte de plus en plus celles qui ont recours aux meilleures pratiques de participation citoyenne. On reconnaît volontiers que le développement économique et une culture de l'innovation reposent de plus en plus sur des écosystèmes locaux dynamiques et que l'adoption des meilleures pratiques de collaboration est déterminante à la qualité et la durabilité des solutions. Alors, comme pour bien d'autres mouvements technologiques, eh bien, l'intelligence passe de plus en plus par la confiance.
Comme quoi, il y a toujours de l'humain dans tout ça. Bon, bah, c'est rassurant. Merci beaucoup, Audrey.
C'est au Québec.
Salut Émilie.
Salut Philippe.
Alors chaque semaine, tel le laborantin accroché à sa paillasse, tel le bernique rivé à son rocher, tu ne lâches rien. En quête du job parfait dans la recherche et l'innovation, c'est le biais d'Émilie, la tête chercheuse.
Je cherche. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce.
Alors, on parle vraiment beaucoup de nouvelles technologies au micro de Célèbdo. Mais vous savez quoi? Moi, j'en ai marre qu'on parle...
C'est le coup de gueule du jour, évidemment.
Voilà. J'en ai marre qu'on parle de nouveautés, de jeunes. Pour une fois, j'aimerais qu'on parle des vieilles. Mais de quelles vieilles, vous allez me demander? Des vieilles technologies. Philippe, des vieilles
technologies.
Je ne pensais qu'à ça. Alors, je me suis en fait demandé quelles sont les plus vieilles technologies qui n'ont jamais été détrônées. Car Jessica, c'est bien beau les technologies haptiques, mais ça sert un peu à rien, on va se dire. Je sais pas qu'est-ce que... Attendez, attention, question glissante. Mais qu'est-ce que vous aimeriez toucher avec cette technologie?
Oui, c'est très glissant, évidemment, comme question.
Voilà, donc...
Tournons-nous vers l'écran.
Alors, quelles sont ces vieilles technologies dont je parle, à votre avis, donc les plus vieilles technologies qui n'ont jamais été détrônées? Et attention, je remonte à des millénaires.
La radio.
Oui.
Ah, des millénaires, oui, absolument. Il y a 2000 ans, on naissait la radio, tout le monde sait ça.
Ça casse ce matin, je ne veux pas dire, mais... C'est, alors, des plus vieilles okay. technologies de millénaires, bah,
je vous donne la réponse. Et attention, je ne vais pas faire de blagues glissantes là-dessus, mais c'est la corde. Et
la
oui,
corde,
oui, la corde. Et on n'y pense pas assez, mais il n'y a encore rien qui a remplacé la corde.
Ou la roue.
Ou la roue, effectivement, ouais. Mais... Là, je parle de la
corde. Je me brûle ce punch.
Donc, non, mais à noter que ça a quand même considérablement aidé l'humanité à évoluer. On a pu transporter des gros objets, faire de la construction, on a pu chasser, on a pu faire plein de choses avec ça. Donc, au début, la corde, c'était de la liane, c'était des plantes. Puis, jusqu'à ce qu'on se mette à twister deux cordes ensemble. Puis là, la corde twistée est devenue incroyablement solide. Pour l'anecdote, des fossiles de deux cordes tournées ensemble ont été retrouvés dans la grotte de Lascaux et ils datent de 15 000 ans.
Wow.
Donc, moi, mon travail, c'est de trouver des métiers. Donc là, des métiers qui utilisent la corde de nos jours. Donc, dans le domaine de la science, vous pourriez continuer des travaux de recherche sur la théorie des cordes. Mais là, c'est vraiment imagé. Mais plus concret, vous pourriez aussi postuler tout simplement à des jobs de commis à Rona et Canadian Tire au rayon corde et ficelle. Voilà. Deuxième invention.
Oui.
Une autre idée, peut-être. On parle de millénaire.
Moi, j'avais donné mon.
Ouais, non, mais la roue, c'était bon. Je l'avais mis, puis je l'ai enlevé. Okay. Je trouvais pas de blague en fait.
D'accord.
La vaisselle.
La vaisselle, non, c'est pas la vaisselle, mais c'est pas si loin, c'est le miroir. Et ça fait maintenant plus de 8000 ans que ce concept a été inventé, et il n'a toujours pas été dépassé. Cette invention était une idée tellement simple, mais révolutionnaire. Donc c'était de polir une pierre jusqu'à ce qu'on puisse se voir dedans. Alors on dit de notre génération qu'on est narcissique avec nos selfies, nos publications sur les réseaux sociaux, mais pensons quand même à celui ou celle qui a poli une pierre pendant des semaines.
Avant
de se voir dedans. Voilà, donc c'est ça. Donc des métiers...
À son âme.
Ouais, exactement. Mais merci quand même. Donc, des métiers reliés à cette innovation, il y en a plein aussi. Je vous conseille notamment de postuler à IKEA au rayon salle à manger salon. Avec sa collection de plus de 40 miroirs, vous aurez de quoi faire. Vous détenez désormais un argument de vente infaillible. Alors, attention cependant à la casse. Vous savez très bien que briser un miroir équivaut à 7 ans de mauvais sexe.
Oui. Non, de mauvais sexe. De mauvais sexe, d'accord.
Voilà, histoire vraie, j'en ai brisé 3 en 2012. Je vous laisse faire le calcul. Bon, allez.
12 ans de pénitence.
Sans rire, allez voir les vraies offres d'emploi sur le site de cscience.ca, ça vous évitera de dire la prochaine fois. J'ai cherché,
j'ai pas trouvé. Merci Émilie, on rappelle, vous pouvez consulter notre sélection d'offres d'emploi, recherche et innovation sur notre plateforme cscience.ca et si vous avez des offres à publier, eh bien tout simplement, vous nous contactez via notre plateforme et on se fera un plaisir de relayer. C'est l'heure de notre invité. Cette semaine, Audrey, on reçoit Lydia Divry.
Lydia Divry, présidente directrice générale de Techno Montréal, donc la grappe des technologies du Grand Montréal. Elle a notamment piloté le projet mobilisateur et porteur pour l'avenir numérique de Montréal, Montréal Métropole Numérique. Et elle a aussi participé à la mise en place du bureau de la ville intelligente et numérique de la ville de Montréal.
Lydia Divry, bonjour.
Bonjour.
La semaine dernière a été lancée à Montréal la déclaration pour une intelligence artificielle responsable. Est-ce que vous l'avez signée?
Est-ce que je l'ai signée? J'étais au forum de l'Observatoire. J'ai malheureusement pas encore signé la déclaration,
mais ce n'est qu'une question de temps.
Oui,
voilà.
Parce que tout le monde est pour cette déclaration-là. Tout le monde est en faveur parce que c'est tellement... Il nous en faut une.
La grappe des industries technologiques du Grand Montréal, c'est, on le rappelle, plus de 100 000 emplois. C'est combien d'entreprises environ?
À Montréal, c'est 5400 entreprises.
5400 environ. Entreprises?
Ouais. Près de 110 000 emplois, toujours en croissance.
Ouais.
C'est des emplois. En termes d'emplois, la croissance est trois fois plus rapide que le reste de l'ensemble de l'économie. Donc,
exactement.
C'est effervescent.
C'est un secteur qui compte. Votre rôle à vous, Techno Montréal, c'est d'assurer la croissance du secteur, de contribuer à son rayonnement. Vous devez être heureuse parce que Montréal, c'est la métropole de l'intelligence artificielle. C'est la ville du jeu vidéo. C'est la ville des effets visuels. C'est l'une des villes les plus intelligentes au monde. On en a parlé tout à l'heure.
Oui.
Il n'y a qu'à voir l'état de la circulation dans les rues. Plus sérieusement, on est arrivé au sommet ou il reste encore du chemin à faire?
Non, il reste encore beaucoup de chemin à faire. On est dans une économie de numérisation, de transformation numérique. Donc, nos entreprises, on a le défi maintenant de transformer tous ces secteurs-là. Nos entreprises doivent travailler avec tous ces secteurs économiques-là, puis ils doivent encore développer Mondialement, il y a une course quand même. Hein.
C'est une compétition.
Il faut se placer, là, exact. Mmh. Et tout le monde se positionne sur l'intelligence artificielle, que ce soit en Chine, que ce soit en France. En France, on essaie d'être la start-up nation. Ici, c'est pas tout à fait les problématiques qu'on a. Selon le Business Insider, on fait partie du top 25 des high-tech cities. Mmh. Et beaucoup, l'écosystème start-up joue un rôle. Tous nos VC jouent un rôle... vous savez que l'année dernière, il y a eu à peu près, en 2017, 3,5 milliards en termes de chiffre de fonds, de capitaux de risque. Et je dirais que 1,3 milliard à peu près, c'est vraiment concentré sur le Québec. Et 65% de cet argent-là, directement dans les dossiers de technologie. Donc, on voit qu'il y a une effervescence et il ne faut pas lâcher. Lorsqu'on parle de start-up, il faut les emmener plus haut, plus vite, plus loin. Donc, il y a une croissance rapide. Il y a besoin d'accompagnement, oui.
Vous disiez, Lydia, qu'il y a à peu près 110 000 emplois, donc a priori en croissance. Il y a une vingtaine d'années, si on met les choses un peu en perspective, la question des compétences en technologie d'information était plus spécifique. Aujourd'hui, on va chercher toutes sortes de compétences intermédiaires. Finalement, ça crée même une concurrence hein, entre toutes les industries, même celles qui sont a priori pas membres hein, de la GRAP. En soi, donc d'une main-d'œuvre captive. On apprend même aux enfants à coder comme une langue seconde aujourd'hui. La question de la pénurie de main-d'œuvre concerne à peu près tous les secteurs. Et puis, je crois bien que ça concerne également votre secteur. Comment on s'en sort actuellement?
Il y a une rareté de main-d'œuvre en technologie. Donc, on est au point de bascule, je dirais qu'en termes de professionnels en technologie, 53% maintenant des professionnels se retrouvent dans les autres secteurs d'activité que les TI. Donc, on voit qu'il y a un point de bascule, on voit qu'il y a une numérisation qui s'étend dans les entreprises. Ils considèrent les TI non plus comme des dépenses, mais des stratégies maintenant d'investissement. Donc, il faut le voir différemment. Vous avez raison. Il y a 10 ans, même dans le jeu vidéo, là, on n'avait pas découvert tous les emplois d'aujourd'hui. Donc, dans 5 ans, on n'est pas encore en mesure de savoir quel est l'emploi, quel est l'emploi de demain.
On sait
qu'on est dans une économie... en fait, on utilise énormément une économie de la donnée. Hein? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des changements de poste, changements de paradigme. Il y a un changement qui s'en vient à l'horizon. Là. Les universités se positionnent, les cégeps se positionnent actuellement. Donc, effectivement... Là.
Mais j'aimerais vous faire réagir, Lydia Divry, sur une note de recherche de l'Institut du Québec qui vient d'être dévoilée ce jeudi. Elle a pour titre « Plus d'emplois bien rémunérés, est-ce possible ?» Et elle indique qu'en contexte de rareté de main-d'œuvre, il vaut mieux soutenir l'amélioration de la productivité des entreprises que le soutien à la création d'emplois. Est-ce que cette proposition, elle pourrait s'appliquer à votre secteur? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses?
Hey. Lorsqu'on parle d'emploi, on va travailler en 2019 des stratégies court, moyen, long terme au niveau de l'emploi, parce qu'on a un bassin de 6400 emplois à pourvoir annuellement en technologie, ce qui est beaucoup. Alors, quand on parle d'emploi, il faut s'assurer qu'il y a une transformation à l'intérieur de l'entreprise. Donc, comment on fait monter en compétences rapidement l'employé qui est déjà en entreprise, au lieu de dire, bon, on va aller chercher un nouvel employé, faire du déplacement d'emploi à ce moment-là. Donc, les stratégies sont très différentes quand on parle de productivité. Donc, il faut voir comment, à l'intérieur de l'entreprise, on peut faire monter en compétences et comment on peut s'assurer qu'il y a un bassin de jeunes qui s'inscrivent dans les programmes. Donc, on sensibilise beaucoup aux primaires, mais on sensibilise beaucoup à un moment crucial où le jeune doit faire son choix de carrière, secondaire 3. Donc, nous, on tient beaucoup d'activités en ce sens-là.
Mais ce que je comprends aussi, c'est que ça veut dire formation professionnelle ou formation continue.
Formation continue, effectivement. Vous avez raison.
On parlait de la qualité de la main-d'œuvre, hein, justement. Il y a aussi une concurrence, hein, entre les différentes, pôles technologiques en technologie de l'information. On est soit producteur aujourd'hui de nouvelles technologies, ou soit on achète les normes et on s'adapte. Et donc, il faudrait que le Québec devienne producteur de nouvelles technologies. J'aimerais savoir quelles sont les tendances à venir. On a l'impression que tout est plus ou moins fait, qu'on n'a plus qu'à mettre en application. Mais quelles sont les tendances en termes d'innovation? Puis est-ce qu'on se positionne bien malgré...
Mais je pense qu'en intelligence artificielle, on veut se positionner. On se positionne bien à l'extérieur du Québec. On est vraiment reconnu. Il faut poursuivre. Il faut encourager aussi les jeunes à aller jusqu'à la recherche et non pas arrêter. Donc là, on va poursuivre. Il y a développé aussi avec les autres secteurs économiques en Internet des objets, exemple. C'est encore énormément d'investissements dans les réseaux. Il y a un grand projet au Québec qui s'appelle Projet Encore. Donc, on parle du 5G. Donc, il faut absolument poursuivre en termes d'innovation puis avoir ce type d'initiative-là. Vous parliez de ville intelligente un peu plus tôt. Bien, dans le quartier d'innovation, il y a encore le grand projet de laboratoire ouvert pour la vie commune, vie intelligente. Donc, il faut poursuivre ce type d'initiative-là qui permet de tester les technologies aussi. Avec les citoyens aussi, là, parce qu'il ne faut pas oublier, vous l'aviez sorti en ville intelligente, mais c'est important que les citoyens soient partie prenante.
Données ouvertes, sciences ouvertes.
Tout à fait, oui.
Ouais, c'est ce grande tendance dont on a parlé, effectivement. Le secteur des technologies de l'information, il bénéficie depuis plusieurs années d'un coup de pouce fiscal, hein, les fameux crédits d'impôt. Ça représente près de 38% des dépenses salariales admissibles. La CAQ, actuellement au pouvoir, a dit qu'elle n'y toucherait pas. Est-ce que ça vous rassure?
Oui, parce que faut comprendre une chose, hein, nos entreprises exportent leurs produits. Donc, une entreprise en technologie, c'est pas le marché local qui va l'intéresser, c'est trop petit. Donc, elles doivent exporter. Et lorsqu'on exporte, on fait face à une concurrence qui est mondiale. Et tous les pays ont leur propre programme. Donc, on est dans la course. Il faut demeurer dans la course. Donc, ces mesures fiscales-là sont très importantes. On a fait des études, j'ai pas les chiffres en tête, là, mais on a déjà fait des études pour faire la démonstration de la retombée de ces mesures fiscales-là.
Oui. Mais il y a des voix de l'industrie qui s'élèvent depuis quand même plusieurs années, puis qui s'élèvent même régulièrement. On pense à Éric Boyko de Stingray, on pense également à Louis Etu de Coveo, pour dire ce programme de crédit d'impôt, il est trop généreux pour les entreprises étrangères qui viennent s'installer ici, puis qui, dans certaines mesures, siphonnent en quelque sorte les talents locaux. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
En fait, lorsqu'on regarde l'attraction des entreprises étrangères, effectivement, pour plusieurs personnes, plusieurs entreprises nous disent, ils viennent chercher notre talent. Le premier facteur de localisation d'une entreprise, c'est le talent. Donc, c'est la même chose pour nos entreprises. Lorsqu'on va à l'externe et on va s'installer dans un autre pays, on a les mêmes paradigmes. On s'installe pour le même talent ou les mêmes mesures fiscales. On a les mêmes choses. Ce qu'il faut voir, c'est peut-être la concentration. Quand on parle de hub intelligent, c'est qu'on va avoir une concentration d'emplois qui va être ici. Donc, quand on a une concentration, on attire aussi les emplois de l'extérieur. Donc, oui, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde parce que, effectivement, il y en a qui vont se faire, avoir du déplacement d'emploi aussi ici. Il faut trouver le moyen de les attirer, d'où le mandat de Montréal International dans l'attraction du talent, d'où le mandat de Québec International. Donc, il faut poursuivre. Et je pense qu'à l'international, on est attractif. Les gens, j'étais en France deux, trois fois cette année. Et c'est constant. Les gens veulent venir s'installer au Québec. Ils ont une compétence, en intelligence artificielle ou en données, en programmation, et cherchent à venir s'installer au Québec. Il faut les attirer de plus en plus. Il faut conserver aussi nos étudiants étrangers. Il faut s'assurer qu'on ait l'emploi et la main-d'œuvre. Mais évidemment, lorsqu'on est dans une rareté, ça crée une pression un peu partout, là.
Je voudrais pas trop insister sur la question fiscale, mais tout de même, c'est quand même une manière d'attirer en cherchant à diminuer le coût de la main d'œuvre. Est-ce que c'est vraiment ce dont ont besoin les entreprises technologiques aujourd'hui? Est-ce que c'est une question d'enjeux salariaux ou c'est une question de plus de compétences, justement?
C'est au-delà de l'enjeu salarial, c'est beaucoup l'enjeu de la compétitivité. Le coût le plus élevé lorsqu'on développe un produit, c'est la commercialisation. Alors, ces mesures fiscales-là nous permettent à la PME, parce que la PME a un coût sur 10 $, c'est 7 $ qui est voué à la commercialisation. Donc, ces mesures fiscales-là vont aider la PME à se développer plus rapidement. Vous enlevez ces mesures fiscales-là, vous allez réduire l'investissement et c'est prouvé, là. Et elles vont aller ailleurs.
Un effet de levier, c'est ce que vous voulez dire. Justement, pour rebondir sur les questions de salaire dans les technologies de l'information, c'est l'inflation depuis plusieurs années. On pense même à des salaires pas faramineux, mais pas loin pour certains programmeurs. Est-ce que c'est un bon signe, cette inflation, ou est-ce que c'est inquiétant?
Non, je pense que l'augmentation salariale va aussi avec la demande, l'offre et la demande. En moyenne, j'ai pas le dernier chiffre du diagnostic sectoriel de technocompétences, mais je pense que la moyenne salariale en technologie, c'est environ 80 000, si ma mémoire est bonne.
C'est ça, à peu près.
Bon, donc, mais si on regarde dans les autres secteurs d'activité, elle est encore plus élevée. Donc, faut voir, ça va toujours aller en augmentant.
Quand on se compare... On se satisfait.
Une toute petite question. Votre organisation Techno-Montréal se concentre en santé, commerce de détail et transport. Pourquoi ce choix? Et il y a tellement d'autres domaines importants.
Bonne question. En 2015, on a travaillé le dossier de la ville intelligente. Et ce qui nous a amené à travailler des secteurs d'activité, des thématiques, dont la mobilité. Et on a fait un regard sur les technologies de rupture et l'impact des technologies de rupture sur certains secteurs. Et le transport en est un. Donc, d'où faut accélérer par l'utilisation des technologies. Le commerce de détail actuellement est vraiment dans la course des technologies. Et la santé. Nous, ce qu'on vit, c'est le vieillissement de la population. Donc, on travaille des projets avec des usagers, des projets avec des maisons de retraite, des pharmacies, pharmacie 4.0. Donc, on est dans cette mouvance. C'est pour ça qu'on choisit certains secteurs. On regarde l'énergie aussi actuellement.
Des secteurs de rupture, en tout cas des secteurs qui voient de l'avant.
C'est ça, exact.
Justement, on voit de l'avant, ça sera la dernière question. On est fin 2018. Est-ce qu'il y a un enjeu à surveiller pour l'année qui vient, en particulier chez vous?
Le talent.
On n'en manque pas.
C'est le frein, là. C'est facilement poursuivre avec le talent.
Alors, on espère que vous serez écoutés. Merci beaucoup, Lydia Divry. Je rappelle, vous êtes présidente de Techno Montréal, la grappe des technologies du Grand Montréal. Merci encore d'être venue au plateau de Célèbre 2.
Merci.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de Un samedi soir dans l'histoire. Je prends l'accent de Francis Cabrel parce que ça me fait penser beaucoup à cette chanson-là. Un samedi soir sur la Terre. Mais c'est pas lui, c'est Juliette Armanet. C'est le choix de qui? De Lucille, qui est notre directrice de production. On la salue. C'est notre recommandation de la semaine pour vos travaux de recherche en labo. Merci Jessica, merci Émilie, merci Audrey et merci encore une fois Lydia Divry d'avoir été des nôtres cette semaine. À la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS. À la recherche, Émilie Laurenceau et à la coordination plateau, Eve, Jasmin, Philippe Regnault au micro. C'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, excellente semaine à tous.
Le cœur en cadence, laisse-moi les latences de plus. Ton miroir, parce que ton samedi soir, ton monophonie, beau et bizarre, s'étouffer d'angoisse sur ma tente, briser la glace, sans que quelqu'un mette une trace, mais va descendre jusqu'au un samedi soir plein d'espoir. Ce soir avec toi va savoir dans l'aube éblouie. Je mettrai au placard mes bagues, mes beaux parents en catimini. Oui, moi samedi te voir. Est-ce que ça te dit?
Est-ce que ça te dit?
Un samedi.